en direct du Carrousel du Louvre à Paris, sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP sur BFM Business. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
En direct du sommet BFM Patrimoine, troisième édition au Carrousel du Louvre à Paris. Dans un instant, le face-à-face avec nos deux invités. Mais d'abord, un point sur la séance en cours à la Bourse de Paris. Première séance de hausse depuis pratiquement une dizaine de jours pour le CAC. On est toujours au-dessus des 7000 points, plus 0,28%. On va commenter cette séance avec Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
On rebondit après plusieurs séances de baisse assez contenue, on va le dire.
Oui, dans le sillage du mouvement qu'on a eu, légère remontée de Wall Street, notamment sur les valeurs technologiques hier. Alors on a pris acte aussi des minutes de la Fed qui fait quand même état de légère divergence au sein de ses membres, notamment sur l'inflation, son niveau et sa durée. Donc voilà, malgré tout, ça n'a pas affecté les marchés. On voit qu'il y a une dynamique, notamment de reprise par rapport à des valeurs qui avaient souffert hier. Hein. C'était notamment des valeurs de croissance qui étaient un petit peu dans le dur et qui rebondissent aujourd'hui. En tête du CAC 40, on a Pernod Ricard qui monte dans le sillage de la publication extraordinaire de Rémy Cointreau qui satisfait l'ensemble des investisseurs.
Rémy Cointreau, donc, qui se distingue. Orange, on peut peut-être en parler aussi avec la démission de Stéphane Richard.
Oui, effectivement. Alors, cette nouvelle qui était, qu'on surveillait attentivement. Alors, il faut le savoir, hein, d'un point de vue organisationnel, Stéphane Richard avait déjà préparé sa succession. On le sait, Monsieur Richard était présent au sein de la société depuis 11 ans, très très apprécié honnêtement par l'ensemble des salariés du groupe, un groupe qui était plutôt correctement géré, même si effectivement on est en absence de croissance. Là, on va être quand même extrêmement vigilant sur la nomination de son successeur. Alors plusieurs noms apparaissent, hein, notamment Fabienne Dulac, qui est la directrice d'Orange France, qui aurait du sens, honnêtement, lorsqu'on écoute un peu Monsieur le maire dans la volonté d'intégrer de plus en plus de femmes au sein des grandes sociétés. Donc là, ça serait tout à fait logique dans cette idée-là. Donc on va surveiller ça. Il y aura aussi la notion de séparation des pouvoirs, aussi quelque chose de très important, notamment la séparation du rôle de PDG et de directeur général. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va surveiller. Malgré tout, on voit qu'il n'y a pas tellement de réactions sur le titre, puisque cette préparation à la démission de Stéphane Richard était largement intégrée dans le cours de la société, puisque effectivement Monsieur Richard devait partir au mois de mai de cette année, de 2022, pardon. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui les investisseurs sont peut-être en train de passer à autre chose.
Merci beaucoup Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. La Bourse de Paris toujours en progression, plus 0,28% pour le CAC, progression dans toute l'Europe. Francfort sur le DAX gagne pratiquement 0,4%. En Italie, c'est une progression de 0,38%. Et à Londres, le FTSE gagne 0,13%.
BFM Business, BFM Patrimoine, le face-à-face.
Nos invités du face-à-face ce matin en direct du salon BFM Patrimoine, Guillaume Dard, président de Montpensier Finance. Bonjour, merci
d'être
avec nous. Marc Ries, directeur général de Vega Investment Managers. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Plusieurs séances de baisse consécutives sur le marché parisien. Marc, ça reste malgré tout, en tout cas pour l'instant, une fin d'année assez exceptionnelle.
Oui, ça reste une très belle fin d'année. On voit que le marché essaie à plusieurs reprises dans son parcours de corriger un petit peu quand il a beaucoup monté. Ça a été le cas au début de l'été, ça a été le cas la semaine dernière. Mais finalement, il est quand même extrêmement résilient. En tant que gérant, on sent bien lorsqu'on vend des valeurs qui ont beaucoup monté, etc., que on n'a pas tellement de choses à faire avec nos liquidités. Et donc très vite, on est un peu contraint de revenir, d'être investi. On a l'impression que c'est une résilience qui va durer dans les mois qui viennent.
Guillaume Dard, c'est pas forcément facile d'investir sur un marché en croissance comme celui-ci.
Oui et non, ça c'est quand même mieux que d'investir dans un marché qui se casse la figure en permanence. Je crois que chez Montpensier et chez tous mes confrères, on préfère quand même ce contexte-là. On connaît bien les données principales. on est dans un monde à taux d'intérêt quasiment à zéro. Et donc, vous connaissez l'expression, l'acronyme TINA.
There is no alternative.
Exactement. Donc, ça fait ce courant puissant, cette résilience dont vient de parler Marc. C'est vrai que dans un autre contexte, la résurgence de la pandémie aurait provoqué une baisse plus sensible. Et il y a ce sujet en toile de fond dont on va reparler, j'imagine, qui est celui de l'inflation, qui est probablement la question la plus complexe à laquelle vont faire face les investisseurs pour 2022.
Sujet central, effectivement. D'abord, peut-être un mot sur la crise sanitaire. Vous êtes inquiet de cette sixième vague, à la fois sur la reprise économique et sur les marchés?
Alors d'abord, quand je regarde autour de moi dans ce sommet BFM Patrimoine, je ne vois pas une extrême inquiétude. Mais on sait très bien que ces mouvements d'inquiétude, ils peuvent basculer très rapidement. Et il y a une nouvelle donnée qu'on analyse qui est assez complexe. C'est le fait que la contagion se passe par les enfants de façon assez significative. Donc on va être probablement assez vite confronté à cette contrainte. Faut-il ou pas vacciner les enfants? Est-ce que c'est dangereux? Pas dangereux. Mais sinon, on ne voit pas très bien comment on va arrêter la contagion là, dans cette phase-là. Puisque si tous les adultes... voilà. Donc, alors, en France, ça, c'est la situation française. En Allemagne, ça ne rigole pas beaucoup. On imagine, si on avait une déclaration comme celle du ministre de la Santé allemand qui dit « dans deux mois, on sera soit mort, soit guéri, soit vacciné », vous imaginez si notre ministre de la Santé, qui est déjà assez attaqué, avait fait une déclaration de ce type-là. Mais c'est vous dire que c'est quand même un sujet majeur et que très, très vite, la bonne ambiance pourrait être un peu gâchée pour Noël si on avait vraiment une accélération de l'épidémie.
Olivier Véran doit prendre la parole dans les prochaines heures. A priori, les annonces vont surtout concerner la vaccination. Marc Riez, on ne parle pas évidemment de risque de confinement, donc a priori pas de risque majeur pour notre économie.
Je pense que effectivement Guillaume a raison de dire cette pandémie se rappelle à nous un peu, peut-être plus que ce qui avait été imaginé. Alors sur le sujet effectivement de la vaccination des enfants, c'est une question qui se pose effectivement ici. Aux États-Unis, vous avez vu qu'elle a été traitée, puisqu'ils ont décidé là-bas de vacciner effectivement les enfants entre 5 et 11 ans. Donc c'est quelque chose qui pourrait très bien survenir également chez nous. Mais surtout, le sentiment que j'ai, mais c'est peut-être un faux sentiment, c'est que aujourd'hui, les marchés, si vous voulez, sont moins sensibles à cette thématique parce qu'ils ne croient pas vraiment à nouveau à un vrai confinement et à une vraie mise à l'arrêt de l'économie comme ce qu'on a pu connaître par exemple en mars 2020, etc. Et que donc même s'il y avait à nouveau une flambée épidémique, bon quand même un peu limitée par la vaccination néanmoins, les mesures qui seraient prises ne seraient pas aussi contraignantes et que pour le coup, aujourd'hui, et puis en plus les marchés ont vu que les entreprises arrivaient à vivre avec cette pandémie, à s'organiser, etc.
On a appris à produire et à consommer.
Exactement, autrement.
Parmi les débats de cette fin d'année, évidemment, et Guillaume en parlait à l'instant, l'inflation, le pic d'inflation qui se prolonge. Pour la zone euro, le taux annuel est estimé à 4,1% par Eurostat, qui est l'office statistique de l'Union européenne. Et pour les États-Unis, la hausse des prix à la consommation est désormais de 6,1%. Guillaume, d'abord, un commentaire sur ces chiffres.
Alors, tout le débat, ces chiffres sont normaux, si j'ose dire, par rapport à la hausse des matières premières à laquelle on assiste, plus un certain nombre de hausses de produits finis. Donc la question n'est pas le niveau d'aujourd'hui, la question est, comme vous l'avez dit, est-ce qu'elle est transitoire ou pas? Alors, tous les soirs, j'imagine que Christine Lagarde et les autres banquiers centraux s'agenouillent et disent « Mon Dieu, pourvu qu'elle soit transitoire ». Parce que sinon, ce sera extrêmement compliqué à gérer pour les banquiers centraux. Un banquier central, ça a quand même comme mission, en tout cas, et encore plus clairement en Europe, c'est qu'il n'y ait pas une inflation supérieure à 2%. Or, vous venez de donner les chiffres, elle est supérieure. Donc, il faut vraiment qu'elle soit transitoire parce que dans 2-3 mois, même si les Allemands sont un peu plus souples qu'avant, l'agacement va être très fort. Et le risque, Stéphane, c'est la spirale prix-salaire. C'est-à-dire que quand tout d'un coup les prix montent, eh bien, il faut bien compenser cette hausse des prix pour les salariés par une hausse des salaires. Et à ce moment-là, les entreprises qui doivent payer des salaires supérieurs augmentent leur prix et ce qu'on appelle la boucle prix salaire. Et ça, celle-là, elle a disparu depuis 20 ans. Il ne faut pas qu'elle redémarre, ça va très vite. Et en plus, il y a une petite musique de fond politique, hein, à gauche et à droite en France, on l'entend, les salaires doivent monter. Quand on a monté les salaires, alors évidemment c'était différent en 1968 de 35% avec les fameux accords de Grenelle, bah, on a été obligé d'évaluer l'année suivante. Bon, alors comme on ne peut plus dévaluer, je ne sais pas comment on fera, donc c'est assez complexe.
Ça n'a pas l'air en tout cas d'inquiéter les banques centrales. On a eu deux déclarations récemment.
Si, ça les inquiète, mais ils ne veulent pas le dire. S'ils le disent...
En tout cas, pas dans la communication, vous avez raison.
Non, mais non, c'est là où il ne faut pas se faire piéger. Le banquier central ne peut pas dire autre chose que l'inflation est transitoire. Si, vaguement, ils expliquaient que l'inflation allait durer, ça, c'est l'apocalypse.
Alors, les risques, malgré tout, sont orientés à la hausse. C'est ce que reconnaît Isabelle Schnabel, qui est l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE. Ça, c'est une déclaration qui a été effectuée
hier. C'est déjà énorme.
Et puis, une autre déclaration aux États-Unis, celle de Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, qui estime que l'inflation ne va pas durer, qu'elle va retrouver ses niveaux, on va dire « normaux », entre guillemets, de 0,2-0,3% par mois de hausse des prix à la consommation dès le second semestre de l'année prochaine. Marc ?
Alors, moi, je serais quand même porté, même si, effectivement, elle ne peut pas dire autre chose, et Guillaume l'a très justement dit, parce que l'effet sur les marchés financiers serait vraiment majeur, je pense quand même que les éléments qui ont provoqué cette hausse de l'inflation depuis quelques mois, c'est-à-dire la réouverture finalement de la consommation à un moment où les chaînes de production avaient été mises à l'arrêt et redémarraient, la tension que ça a provoquée notamment sur les matières premières, pour moi, effectivement, ces éléments, si vous voulez, ne sont pas pérennes. Et d'ailleurs, on a commencé à le voir sur beaucoup de matières premières dont le cours a déjà commencé à rebaisser. Je pense au fer, au cuivre, à toutes ces matières premières qui avaient flambé et qui se sont normalisés. Alors effectivement, il y a une matière première qui ne s'est pas encore normalisée, c'est le pétrole, mais vous le savez, il y a des éléments autour de ça, de négociations politiques, etc. Je pense aussi que les pays producteurs se disent que devant l'opprobre qui s'est concentré sur le pétrole, ils ont vraiment intérêt à vendre le plus longtemps possible à ce prix-là, parce que c'est pas évident que par la suite, ils arrivent à le faire durablement. Donc moi, je souscris quand même au-delà, effectivement, du fait que ce discours est un discours un peu obligé de la part des autorités monétaires américaines. Je pense quand même qu'effectivement, on a connu déjà ce pic de hausse des prix et que ça devrait se normaliser. Reste effectivement ce sujet des négociations salariales. Il y a des secteurs où on voit que les entreprises lâchent du lest. On l'a vu avec John Deere, par exemple, hier aux États-Unis. Donc c'est quelque chose à surveiller. Je ne suis pas certain que les salariés dans tous les secteurs d'activité, dans le monde entier et au-delà du discours des politiques, soient en situation d'obtenir des augmentations de salaire importantes et durables. Et donc, pour l'instant, moi, je m'inscris toujours dans cette vision que ces tensions sur les prix ne sont pas une spirale inflationniste et qu'ils sont provisoires.
Guillaume, en France, on est proche de l'élection présidentielle. Est-ce que les revendications salariales ne vont pas s'intensifier à l'approche de l'élection ?
Mais c'est exactement le sujet. Donc, alors, la France, évidemment, est un pays où... Enfin, c'est le pays auquel on s'intéresse le plus, tous les trois. Mais le sujet va arriver. La France, qui a déjà un déficit budgétaire, si en plus, elle dérape. Pour l'instant, c'est intéressant parce qu'on a plutôt moins d'inflation que les Allemands.
Oui.
Et parce que bon, il y a eu l'effet TVA en Allemagne, donc mais il faudrait pas qu'on ajoute les sujets pour les Allemands, hein. Parce que si à la fois on n'est pas très sérieux en termes de déficit budgétaire, on est très endetté. On le rappelle, on a deux fois la dette en pourcentage du PIB qu'ont les Allemands, puisqu'ils sont aux alentours de 60, on est vers 115-120. Si on avait une inflation plus forte qu'eux, ça poserait un sujet. Donc, mais cette tendance, elle n'est pas juste française pour une fois. C'est que le gouvernement américain, le gouvernement Biden, il ressemble un peu au gouvernement Johnson de la fin des années 60 qui avait connu justement cette poussée d'inflation qu'on avait mis 15 ans à arrêter aux États-Unis. Donc c'est un mouvement un peu politique, même en Grande-Bretagne. On parle d'augmentation des salaires, alors pour les raisons naturellement aussi de goulot d'étranglement, avec par exemple les chauffeurs routiers qui ne se représentent plus à l'emploi, les immigrés polonais qui sont repartis. Donc on a ce mouvement un peu global, c'est une tendance, et encore une fois, je vois que Marc fait partie des gens qui prient le soir avec Christine Lagarde.
Absolument.
que l'inflation sera transitoire. Espérons qu'ils auront raison.
Alors justement, on va parler des banques centrales avec deux éléments d'actualité. D'abord, la reconduction de Jerome Powell pour 4 années supplémentaires à la tête de la Réserve fédérale américaine. Le président américain Joe Biden aurait pu faire un choix politique, il a fait le choix de la continuité, il a opté pour la stabilité. Qu'est-ce que ça change, Marc ?
Alors d'abord, ça rassure les marchés, parce que vous vous souvenez que le fait justement qu'ils reçoivent l'Elbreden il y a quelques semaines avait beaucoup inquiété, le marché s'était dit mais est-ce qu'il ne va pas mettre un terme au mandat de Powell ? Et finalement, le fait qu'il le garde, je trouve que dans une période comme celle-là où il y a des doutes justement sur l'inflation, où on voit bien que les banques centrales auraient très peu de moyens d'agir s'il y avait des soucis de cette nature. La continuité, c'est quand même le mieux que les marchés puissent espérer.
Son remplacement aurait été un risque inutile.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en nommant une vice-présidente, justement, il prépare un peu cette transition déjà. Donc je trouve que c'est un peu le meilleur des choix qu'il pouvait faire. À la fois rassurer les marchés sur la continuité de cette politique monétaire de la Réserve fédérale qui, depuis des années, a été excellente et a permis de traverser des crises, etc., et quand même une ouverture sur le futur et sur ce que sera la Réserve fédérale dans 3-4 ans.
Guillaume, il a plutôt pris la bonne décision, je suis d'accord avec Marc, et en même temps ça prouve qu'il se sent très faible. D'abord, bon, c'est la décision habituelle, 2 fois sur 3 on prolonge le patron de la Fed, mais pas à chaque fois. Trump, par exemple, n'avait pas voulu conserver Yellen. Et ça a été fait par d'autres présidents. À son époque, Reagan aussi avait changé. Donc, pourquoi ça veut dire qu'il est faible ? C'est parce que c'était très contesté, la renomination de Powell, par le Parti démocrate. Vous savez que le Parti démocrate, au fond, Biden, il a ses frondeurs. C'est un peu comme Hollande, il y a quelques années. C'est-à-dire que les gars à gauche du Parti démocrate disent... Powell, d'abord, c'est un républicain, donc non. Deuxièmement, il ne va pas assez faire de choses pour le climat. Et troisièmement, il ne va pas assez réguler les banques. Et ce qui est intéressant, c'est que pour dire à quel point Biden a eu la main faible, c'est qu'on pensait que Lael Brainard serait nommée à la régulation des banques et on ne lui a pas donné la régulation des banques. Elle a ce poste de vice chair qui ne veut pas dire grand-chose... qui peut-être la positionne, mais pas obligatoirement. Le monde est entouré de vice-chairs qui n'ont jamais été chairs. Donc, ça prouve que... Mais, au fond, il a quand même eu raison.
Justement, cette démocrate, Lael Brainard, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la Fed ? Vice-présidente, quand même.
Bah, elle est là depuis un bon moment,
oui,
d'abord.
Oui, mais vice-présidente.
Enfin... Dites-moi le vice-président de Greenspan, dites-moi le nom du vice-président de Bernanke, dites-moi le nom du vice-président d'Yellen. Personne ne sait qui est le vice-chair, sauf pendant
un
moment.
Mais justement là, le fait qu'on mette l'accent sur ça, peut-être que c'est vouloir envoyer un signe.
C'est le jour de la nomination, mais le président d'abord, c'est lui qui va, parce qu'il y a eu beaucoup de départs à la Fed, donc c'est lui qui va compléter le board. Bien sûr, il faudra qu'il se mette un peu d'accord avec elle, mais ce qu'il faut comprendre en plus aux États-Unis, c'est que en fait, le président peut nommer, mais en fait, il nomme pas. Il propose, et ça doit être ratifié par le Sénat. Et donc, il avait peur que Mme Brainard ne soit pas ratifiée par le Sénat.
Compte tenu de l'équilibre.
Et donc, ça prouve que déjà Biden, il a les élections à la fin de l'année 22, c'est déjà quasiment fini le moment de son mandat.
Du côté de la BCE, la préoccupation du moment, c'est la fin au premier trimestre de l'année prochaine du PEPP, le programme de rachat d'urgence qui avait été mis en place dans le cadre de la pandémie. On a assisté, Marc, depuis quelques jours à une remontée des taux sur le marché obligataire. Comment est-ce qu'on interprète ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des craintes particulières par rapport à la fin de ce PEPP ?
Oui, alors, c'est un peu comme le début du tapering, en fait, hein, aux États-Unis avec cette annonce que depuis novembre, depuis ce mois-ci, justement, les achats de la Réserve fédérale diminuent graduellement jusqu'à fin juin. Mmh. Là, ce sont des achats qui ne vont pas diminuer graduellement, qui vont rester à peu près stables jusqu'à fin mars. Mais là aussi, une date de fin. Alors, c'est une source d'inquiétude parce que forcément, on sait que le marché est alimenté par ces montants colossaux que les banquiers centraux injectent tous les mois. Mais là où l'inquiétude est un peu moins vive en Europe, c'est que ce programme a été débloqué en supplément d'un programme d'intervention plus pérenne qui, lui, ne s'interrompt pas.
Mais qui, lui, en revanche, doit être effectué au prorata du poids des États dans,
alors,
dans
voilà,
la zone euro.
Alors, voilà, c'est le sujet, c'est qu'effectivement, la Banque centrale ne pourra plus privilégier la dette italienne, espagnole, le cas échéant. Elle sera obligée de respecter, effectivement, le pourcentage d'emprunts allemands à acheter, ce qui n'est pas très simple et ce qui effectivement limite certainement les montants qui peuvent être consacrés à ce programme-là. Mais le marché se dit, voilà, on voit mal, après tout ce qui a été fait par les banquiers centraux, on les voit mal, si jamais il y a de nouveaux problèmes, arrêter de subvenir. Et donc, il y a plus d'inquiétude aujourd'hui des marchés sur le fait que les banquiers centraux pourraient ne pas faire assez. Surtout dans ce contexte où on craint un peu d'inflation. Donc, le marché ne s'inquiète pas d'une insuffisance d'action des banquiers centraux.
Guillaume, il y a une différence de communication énorme entre la BCE et la Réserve fédérale américaine. La BCE, on est à 4 mois de la fin du PEPP et on a eu finalement assez peu de communication, alors que la Fed prépare le terrain pour annoncer le tapering depuis des mois.
Vous soulignez un point important, c'est que, au fond, depuis la grande crise de 2008, on a un décalage. C'est-à-dire que la BCE et la Fed sont décalées. La Fed a globalement est intervenue beaucoup plus tôt dans les mesures dites non conventionnelles. La BCE a mis un certain temps, et c'est pas du tout la faute des responsables de la BCE, c'est qu'il fallait obtenir un consensus et avant de se lancer dans ces politiques hétérodoxes de rachat de titres massifs, c'était pas évident. Et donc il a fallu attendre Draghi. Donc on a quand même à peu près 5 ans de retard. Alors sur les mesures prises à la suite de la pandémie, là on a eu moins de retard, mais comme on a un décalage de cycle, les États-Unis sont un peu ressortis avant et nous on est un peu derrière. Alors je vais un peu nuancer ce qu'a dit Marc. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude parce qu'effectivement les marchés pensent que, d'abord, je ne mettrai pas toutes les banques centrales dans le même chapeau. Je dirais, en ce qui concerne la BCE, ils pensent que on va réinventer, je ne sais pas si ce sera un APP+, ou un nouvel acronyme, on a une folie des acronymes en Europe, mais il y a quand même une petite tension sur les taux, sur deux jours, il ne faut pas la négliger, et ça va quand même redemander un accord de consensus. Ce qu'on a compris à la suite de toutes les déclarations, c'est que le consensus, c'est pas de hausse des taux d'intérêt en 2022. Ça, tout le monde l'a dit, même les Allemands. Mais je n'ai pas encore entendu de déclarations sur le programme. Donc j'imagine là que Christine Lagarde va avoir 2 mois très actifs pour voir à quel niveau elle devra soit remonter l'APP, soit inventer un autre programme.
Au-delà du programme, hein, Guillaume, il y a aussi l'histoire des TLTRO. On sait que ce qui a beaucoup aidé, notamment le système bancaire européen dans cette crise, c'est les fameux prêts de long terme que la Banque centrale a consenti aux banques commerciales à moins 1%. Mm-hmm. Donc, il y a le sujet évidemment du renouvellement de ces TLTRO. Et ce serait un moyen, le cas échéant aussi pour la BCE, si politiquement elle est coincée sur les programmes de rachat de dettes souveraines, pour remettre à nouveau de la liquidité dans le marché. Donc je pense qu'effectivement c'est un sujet. Mais ce sujet de hausse des taux, il me paraît beaucoup plus américain qu'européen.
Il nous reste peu de temps. Est-ce qu'on est aujourd'hui, on a le risque aujourd'hui d'une nouvelle crise de la dette en Europe ?
Je crois qu'on vient de traiter le sujet.
Les taux remontent en Italie.
Les taux remontent depuis 2 jours, mais disons on est à 1,10 depuis 3 mois. Donc si vous voulez, ça bouge de 10, 15 centimes. Mais il n'y a pas eu de... Si on prend la dette française, il y a un mois, on était monté jusqu'à 0,25. On est revenu à 0, on remonte à 0,15. Donc pour l'instant, il n'y a pas de crise de dette. Mais il y a une réflexion. Enfin, je crois que Marc vient de dire les choses. Pour l'instant, le marché ne croit absolument pas que les banques centrales ne donneront pas de la liquidité, que ce soit directement par de l'achat de dette ou indirectement par du refinancement bancaire, même si dans ce cas-là, c'est un peu plus subtil parce qu'il faut que les banques réachètent le papier d'État. Donc pour l'instant, les marchés ne sont pas inquiets. Mais on a... Alors, ce qui est bien, c'est que sur les marchés, il y a toujours des phénomènes contraires qui peuvent s'annihiler. Si vous voulez, on a parlé de la pandémie. Ben, la pandémie, ça veut dire que ça va ralentir. Donc, ça permet aux banques centrales de continuer à aider. Et inversement, il y a de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, c'est pas bon. Mais s'il y a de la pandémie, il y aura moins d'inflation. Donc, pour l'instant, on pense que les maux vont se neutraliser.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au salon BFM Patrimoine, participer à ce face-à-face en direct. Guillaume Dard, président de Montpensier Finance, et Marc Ries, directeur général de Vega Investment Managers. On va retourner dans les couloirs de ce salon avec Étienne.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Étienne Braque dans les allées du salon BFM Patrimoine au Carrousel du Louvre. Étienne, vous êtes avec Jean-Marie Souclier, directeur général de Sogénial Immobilier.
C'est ça, et on est dans la Pierre Papier. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Sogenial Immobilier, SCPI, hein, principalement, qui investit sur différents types d'actifs, hein, les entrepôts, l'immobilier de bureau. Et comment vous avez traversé, là, aujourd'hui, la crise sanitaire? Quel bilan, là, on peut faire à cette fin d'année 2021?
Alors, l'avantage de la SCPI, c'est que c'est un produit qui est très proche du public et très proche de nos locataires. Et nous, chez Sogenial, comme on est une structure à taille humaine, en fait, on a été très, très proche tant de nos porteurs de parts dans la communication que de nos locataires dans les échanges avec eux. Et ça nous a permis de trouver toutes les bonnes mesures d'accompagnement pour à la fois accompagner les locataires qui en avaient besoin, ne pas faire d'effet d'aubaine pour ceux qui le souhaitaient et d'avoir une vraie pérennité dans la gestion long terme de nos locataires. Ce qui est le vrai métier d'une SCPI, c'est le long terme.
Alors, quand on regarde vos fonds là et les détachements qui ont été faits ces dernières semaines pour le troisième trimestre, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a été supérieur à la période d'avant-crise. Comment vous expliquez ça ?
En fait, quand la crise a eu lieu, on a commencé par travailler très fort jour et nuit pour faire tous les business models, tous les stress tests qui étaient possibles. Et on a été très conservateurs. Et après, on s'est dit, en fait, comme on fait beaucoup, par exemple, dans notre SCPI dont vous parlez, cœur de région, commerce, bureau, activité, ou même cœur de ville, commerce, comme on avait pris les bonnes mesures d'ajustement tout de suite, finalement, avec le temps, on a pu être un peu déstressé et du coup augmenter nos coupons parce que finalement, les choses se passaient très bien avec nos locataires. On avait un vrai partenariat avec eux, on avait des vrais engagements avec eux et ça nous a permis de monter nos coupons et de servir des performances meilleures que les années précédentes et on continue sur cette lignée.
Quels sont les enseignements là qu'on peut sortir de cette sortie de crise, même si on est toujours dedans, malheureusement? Est-ce qu'il y a des usages qui ont changé? Est-ce qu'il y a des besoins qui ont changé?
Alors moi, je dirais qu'on va revenir à un vieux précepte, c'est « small is beautiful ». C'est qu'en fait, on est une petite société de gestion, on travaille souvent avec des petites enseignes, des indépendants. Et finalement, c'est ceux ou des petites entreprises, des PME. Et c'est ceux qui ont le plus résisté, c'est eux qui ont été le plus fidèles en fait avec leurs bailleurs. Et les bailleurs ont été les plus fidèles avec eux. Et c'est cette relation de confiance entre nous qui a fait que les choses se sont bien passées. Et ça, c'est vraiment un enseignement qu'on a eu. C'est que finalement, on en était déjà convaincus, mais ça l'a confirmé. Quand on est petit, quand on est agile et quand on est fidèle, et quand on fait ce qu'on dit et qu'on dit ce qu'on fait, les choses se passent bien.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous. Jean-Marie Souclier, qui est donc le directeur général de Sogenial Immobilier.
Merci beaucoup, Étienne Braque, dans les couloirs, dans les allées de ce salon BFM Patrimoine, troisième édition. On le rappelle, nous sommes en direct depuis le Carrousel du Louvre à Paris. On va marquer une pause. Dans un instant, on parlera de la séance en cours à la Bourse de Paris. Petite progression de 0,21% pour le CAC en ce moment à Paris. Après une série de baisses consécutives, on fera le point sur ce petit rebond avec Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval Finance. Il sera avec nous juste après la pause. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. En direct du Carrousel du Louvre à Paris, sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Stéphane Pedrazzi.
Merci d'être en direct avec nous depuis le Carrousel du Louvre. Dans un instant, on va parler des conseillers en gestion de patrimoine. Comment répondre à leurs besoins? Comment répondre à leurs attentes? Avec quels produits? Avec quels outils? On va en parler avec nos invités en plateau. Mais d'abord, un coup d'œil sur la séance en cours à Paris. Le CAC est en progression de 0,21%. On va en parler avec Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Un mot sur cette séance. Évidemment, on va manquer de repères puisqu'il n'y aura pas de séance aux États-Unis pour cause de Thanksgiving aujourd'hui.
Oui. Donc ça sera surtout valable pour cet après-midi. Mais même ce matin, on a un impact sur le volume. On était à 400 millions à 10h30. Bon, souvent, on est plutôt vers 500, 600. Puis là, on est à 600, 650. Donc ça n'avance guère. C'est très calme. Alors le marché a ouvert bien au plus haut. Vers
7080 sur le futur, et puis il a perdu 40 points. Il baisse tout doucement, tout doucement. On est au plus bas de la séance au moment où on se parle. Il n'y a pas de vente de conviction, c'est comme les jours précédents. On n'a pas de catalyseur, pas de conviction. Donc, attendre d'un repli plus important de la part de beaucoup de gestion, mais ce repli ne vient pas. Moi, j'achète toujours. Il faut avoir un comportement opportuniste. J'aurais préféré acheter vers 33, comme la première fois les jours précédents. On voit bien que le marché a une capacité assez forte à mettre de côté temporairement les menaces, à se raccrocher à des choses positives, et notamment les perspectives au niveau des sociétés. Donc sur le fond, il n'y a vraiment pas de changement ce matin, on est en roue libre, mais si vous voulez, il n'y a aucune inquiétude majeure. Il y a toujours ce fort contraste entre évidemment la situation américaine, européenne, sur le plan sanitaire, sur le plan des performances économiques bien évidemment, et puis avec peut-être un resserrement monétaire qui sera plus rapide que prévu aux États-Unis, et cela fait que l'euro-dollar reste plombé. On est à 1,1225 sur l'euro-dollar. Vous voyez, depuis des jours et des semaines, on a une tendance très régulière à la baisse. Voilà, donc une continuité de ce qu'on a eu les jours précédents et les semaines précédentes sur l'euro-dollar. Une continuité de ce qu'on a eu hier et avant-hier avec davantage de volatilité les deux jours précédents sur les actions. Mais toujours cette capacité à voir la vie en rose, même s'il y a des temporairement quelques inquiétudes, mais qui n'ont pas été suffisamment fortes pour faire, sur le plan technique, une bascule, pour déclencher des programmes de vente algorithmiques, par exemple. Non, le marché résiste, reste résilient, et l'idée d'acheter, en intraday notamment, reste évidemment d'actualité. Il n'y a pas de remise en cause. Pour l'instant encore, peut-être un arrêt temporaire, après les 7002, ça c'est OK, mais il n'y a pas de retournement de situation.
Alors, peu de volume, évidemment, marché très calme, vous l'avez dit. Néanmoins, ça reste, Jean-Louis, une très belle fin d'année.
Bah, une très belle année, déjà. On verra si la fin d'année sera bonne. Mais oui, bon,
à
bien
ce
évidemment,
stade, à ce
vous
stade.
Avez raison, Stéphane. Les choses restent bien orientées. Maintenant, vous savez, les books vont se fermer à la mi-décembre. Bon, il y a encore l'échéance décembre vers le... ça va nous ramener vers le 19 décembre, quelque chose comme ça, ou le 15, je ne sais plus exactement le jour exact, mais après, ça va être hyper calme, certainement. On aura une fin d'année en roue libre, et beaucoup vont prier pour que l'on reste comme cela, avec cette magnifique performance, et potentiellement un marché au-dessus de 7000, et ça ferait une année évidemment exceptionnelle, mais quand même une période extrêmement violente entre le point bas des 3006, le plus haut des 7002. Ce sont quand même des volatilités qui sont inimaginables. Et bon, comme on finit sur des points hauts, évidemment, tout le monde est plutôt content.
Merci beaucoup, Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval Finance. Merci pour ce commentaire sur le marché parisien, donc en hausse de 0,18%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Accompagner les conseillers en gestion de patrimoine, comment répondre à leurs besoins, à leurs attentes, à celles de leurs clients, c'est important, on va en parler, avec quels produits, avec quels outils, autour de la table pour tenter d'apporter une réponse. Geoffrey Replin, directeur général de Patrimonial Partner, bonjour, merci d'être avec nous.
Patrimonial Partner, tout à fait, bonjour.
Et Sissoufan Tran, directeur général de Alphase, merci beaucoup d'être bonjour. Avec nous également. Geoffrey, d'abord un mot sur votre positionnement sur ce marché.
Oui, tout à fait. Ben, bonjour. Globalement, Primonial, c'est une activité qui est séparée avec trois lignes de métiers spécifiques qui sont, dans une première partie, la gestion de patrimoine immobilière avec notre filiale Primonial REIM, connue pour les CPI notamment. Ensuite, la financière de l'échiquier pour l'asset management coté en bourse, donc actions, obligations européennes, internationales. Et au milieu de cet ensemble, Primonial Ingénierie et Développement pour l'aspect distribution. Donc ma filiale, celle que je dirige avec une vingtaine de commerciaux derrière, Primonial Partner, qui est la plateforme dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine et aux family office français.
Alors justement, comment il se porte le marché des conseillers en gestion de patrimoine? Quelles sont les tendances de ce marché?
Bah écoutez, malgré le contexte Covid de l'année dernière, 2020 a été une année exceptionnelle. 2021 est globalement aligné sur la même tendance. Donc en termes de chiffres, on est plutôt satisfait. Les points, nous, notre offre, c'est une offre qui est articulée sur deux aspects. Primonial Solutions, qui est une plateforme de produits traditionnels. On va proposer à nos conseillers de patrimoine de l'assurance vie, des SCPI, du private equity et tout un tas de solutions de retraite. Et la grande tendance de cette année, c'est la digitalisation. Donc clairement, le gestionnaire de patrimoine aujourd'hui est un peu envahi par le poids de la réglementation, de l'administratif. La digitalisation, comme on le sait, fait gagner beaucoup de temps. Alors c'est pas la solution à tous les problèmes, mais permet de gagner beaucoup de temps. Donc on a énormément investi dans des solutions digitales de souscription, d'opération, de suivi, ce qui permet au gestionnaire de patrimoine de passer moins de temps face au papier et plus de temps face à son client, lui accorder beaucoup plus de services sur mesure.
Comment est-ce que vous répondez, vous, à ces enjeux du métier ?
Oui, alors sur la partie produit, la digitalisation de la souscription, et ensuite on a observé une tendance de marché assez forte ces derniers temps sur ce qu'on appelle la concentration, et on voit des très grosses structures qui se rassemblent grâce à des injections de capitaux de la part de grands fonds de private equity qui permettent à ces grandes structures de se mettre ensemble et de se doter d'un responsable réglementaire, d'un responsable en ingénierie patrimoniale, d'un comptable pour le contrôle des commissions, ce genre de choses, appliquer toute la gouvernance produit. Nous, il y a 6 ans, on a lancé une offre qui s'appelle l'Office by Primonial et qui permet à tous les indépendants qui ne veulent pas se rassembler au sein d'une très grosse structure et répondre à des investisseurs private equity qui veulent garder leur indépendance, finalement de sous-traiter une partie de leur activité réglementaire, ingénierie patrimoniale, commission. Et donc on invite tous les gestionnaires de patrimoine à venir vers nous pour se dégager ce temps, pour se retrouver beaucoup plus face aux clients.
J'imagine que la digitalisation, c'est aussi une façon de gagner du temps dans un contexte réglementaire qui devient plus dur et plus complexe.
Bien sûr, notamment sur l'aspect souscription. Lorsque vous faites une souscription digitale avec un tunnel de souscription, ouais, et que finalement on vous montre et on vous guide sur les cases à cocher, l'erreur n'a plus vraiment sa place. Donc on sait que la souscription va déboucher sur une complétude de dossier, et donc on va éviter de revenir vers le gestionnaire patrimoine qui va devoir embêter son client pour demander une pièce, deux pièces, trois pièces complémentaires. La souscription est faite, on peut passer à autre chose, et encore une fois, le gestionnaire patrimoine peut finalement rééchanger avec son client sur des nouvelles problématiques et non plus sur une incomplétude de dossier.
La formation, c'est important ?
Très important. Il y a beaucoup de sujets qui planent aujourd'hui, que ce soit encore une fois sur la réglementation, mais il y a toute la fiscalité de l'assurance vie qui a changé au cours des dernières années avec l'apparition de la flat tax. On parle de la loi Pacte avec le lancement de produits comme le PER. On parle aujourd'hui beaucoup de private equity, private debt, capital investissement. Ce sont des notions qui sont pas toujours simples, et même si on vous suit avec assiduité sur la chaîne, on apprend beaucoup de choses, mais c'est notre rôle aujourd'hui de faire beaucoup de pédagogie auprès du client final.
Un mot peut-être de Patrimonial Solutions, qui est votre offre, oui, votre gamme de produits pour justement accompagner les conseillers en gestion de patrimoine.
Bah écoutez, ce sont deux contrats phares, l'un en partenariat avec Suravenir, un assureur de renom.
Qui était avec nous tout à l'heure.
Exactement. Donc sur le contrat Sérénipierre, Oradea Vie avec un autre contrat phare qui s'appelle Target Plus, voilà, qui a remporté un vif succès cette année, qui voit une innovation chaque année en termes de sous-jacents, en termes de souscription digitale, en termes de nouvelles options de garantie plancher. Enfin, ça, on en parlera avec nos partenaires et leurs clients finaux. Et les SCPI qui sont vraiment encore et toujours vraiment porteuses sur le marché.
Et cette gamme, elle est vraiment orientée client final.
Tout à fait, ouais.
Merci beaucoup pour ces explications. Vous restez avec nous. Sissoufane Tran, on va vous donner la parole. Vous êtes très axé sur la formation. On va en parler. D'abord, comment est-ce que vous répondez en général, au sens large, aux besoins des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine ?
Alors, Alphi, c'est une plateforme d'investissement qui est dédiée uniquement aux professionnels du patrimoine. Donc les CGP, des family office, banques privées, banques régionales et des mutuelles. Nous couvrons toutes les classes d'actifs en full digital, donc le compte-titres, le PEA, la SCPI, l'assurance vie. Donc on a vocation à vraiment accompagner les professionnels du patrimoine sur toutes les facettes de leur activité. Vous faisiez allusion à la formation. C'est un élément qui est fondamental dans l'ingénierie patrimoniale, la mise à jour des connaissances, notamment en matière juridique et fiscale. Et la veille juridique et le conseil juridique, pour nous, ce sont des activités à part entière qui demandent énormément de ressources humaines et techniques. Et c'est pour ça qu'on a signé un partenariat avec FIDROIT, qui est le leader en la matière en France, qui vont assurer toutes les formations d'Alpheis en 2022. Donc ce sont des formations qui sont validantes, sont prises en charge financièrement par la plateforme pour ses partenaires CGP. Et le thème qui a été retenu pour 2022, c'est le chef d'entreprise, donc la gestion de patrimoine pour le chef d'entreprise. Donc on a créé 6 modules de formation avec FIDROIT qui couvrent l'ensemble des problématiques du chef d'entreprise, et le CGP pourra choisir le ou les modules de son choix.
Vous également, vous portez une attention très particulière aux attentes, à la demande du client final.
Absolument. Le conseil, le gros avantage du conseil indépendant, personnalisé, c'est vraiment le suivi dans la durée et la proximité du client final. passer par une plateforme, c'est un peu offrir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez le suivi dans la durée près de chez vous, et puis vous avez l'adossement à une structure qui est plus institutionnelle, qui est plus robuste, qui a plus de moyens financiers pour accompagner votre CGP qui n'est pas tout seul.
J'aimerais qu'on revienne un peu en détail sur les formations, quel type de formation vous proposez, et sur quel format aussi. Est-ce que c'est digital?
Alors,
essentiellement,
pour 2022, nous avons prévu 36 journées de formation à travers la France. Donc ça, c'est du présentiel.
Oui.
C'est soit des demi-journées, soit toute la journée. C'est validant, donc c'est très sérieux. C'est fait par Fidroit. C'est centré essentiellement sur le chef d'entreprise en 2022. C'est la thématique qu'on a retenue. Donc ça couvre des problématiques très larges sur comment appréhender le patrimoine d'un chef d'entreprise, comment on lit les données comptables avec une vision patrimoniale, comment on gère la cession des entreprises, comment on gère le patrimoine après la cession. Donc ça peut être assez technique, ça va du plus simple au plus complexe. Et on a aussi 18 webinaires qui sont prévus pour 2022, donc au total ça fait 54 formations, donc plus d'une formation par semaine avec Alphéis l'année prochaine.
Est-ce que la demande de formation a augmenté en sortie de crise?
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de formations à distance du fait du confinement, ça c'était naturel, et quand on a eu la chance de reconnecter, de revoir des partenaires pour de vrai, physiquement, beaucoup nous ont dit qu'ils avaient perdu énormément, ils avaient le sentiment d'avoir perdu de la connaissance pendant cette période-là, parce que même à distance, si vous restez chez vous et que vous suivez un webinaire, c'est quand même difficile de rester concentré plusieurs heures. Donc il y a une vraie demande de se retrouver et d'avoir de la formation pour se mettre à jour. Même si on est très expérimenté, très formé, diplômé, on a quand même besoin de se mettre à jour de ces sujets-là.
Geoffrey parlait à l'instant de l'évolution du cadre réglementaire. Est-ce que ce changement réglementaire est à l'origine de cette croissance assez significative en matière
de
formation?
C'est sûr que la réglementation a participé à une espèce de, pas de surenchère, mais d'augmentation de la demande de formation. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque le métier de la gestion de patrimoine est peut-être un peu moins reconnu en France qu'il ne l'est dans d'autres pays.
C'est vrai.
Outre-Manche ou outre-Atlantique. Donc moi, je pense que c'est plutôt de nature à rassurer les particuliers, de savoir que nous avons des professionnels aujourd'hui qui sont diplômés, qui ont des obligations de formation annuelles, et c'est certain que la réglementation va dans le bon sens pour le client final.
La complémentarité des solutions offertes par l'architecture ouverte, on peut en dire un mot?
Alors, le gros avantage des CGP, c'est de ne pas être lié à un seul fournisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'architecture ouverte, pardon, que vous mentionnez. Elle est au cœur de notre plateforme. Il faut savoir qu'on a plus de 20 assureurs branchés sur la plateforme, près de 10 000 solutions d'investissement en PEA, 50 SCPI. Donc, ça permet au conseil de diversifier au maximum ses propositions d'investissement. Et la diversification, c'est le premier pilier de réduction du risque pour le client final.
Il y a de plus en plus d'outils digitaux à disposition des conseillers en gestion de patrimoine. Vous dites qu'il faut les améliorer de manière constante et nécessaire.
Absolument, puisque quand vous avez passé la phase de conseil qui est fondamentale, qui est compliquée, il y a le juridique, il y a le fiscal, après il y a la réalisation. Et ce qui est compliqué souvent, c'est que vous avez fait toutes vos préconisations, et puis là il faut remplir des papiers, il y a 50, 60 pages à remplir, c'est assez fastidieux. Il y a un risque d'erreur qu'évoquait Geoffrey tout à l'heure, et c'est sûr que les outils doivent s'améliorer constamment pour suivre la réglementation. Et c'est vrai qu'on pense souvent au gain de temps, au risque d'erreur qui baisse, mais cocher toutes les cases réglementaires en faisant du digital, c'est vraiment fondamental. Et puis quand vous gagnez du temps, vous êtes plus enclin à faire plusieurs investissements. Si vous passez une heure à faire un investissement, il est fort probable que vous n'allez pas diversifier énormément les portefeuilles de votre client. Quand vous le faites en quelques clics, eh bien vous allez diversifier davantage. Ça va dans le sens de la diversification et ça va dans le sens de la réduction du risque pour les clients finaux.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler justement de la manière dont vous accompagnez les conseillers en gestion de patrimoine. Geoffrey Réplin, directeur général de Primonial Partenaire, et Sissoufan Tran, directeur général de Alphéis. On va parler dans un instant des process et on va voir comment ces process, justement, ils impactent le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine.
Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Marseille, 103.1.
Je rappelle aujourd'hui que la France pèse moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du monde grâce au nucléaire, et que si on est vraiment intéressé par la question climatique, il faudrait à la fois sauvegarder cet atout, le développer et aussi le promouvoir à l'étranger.
Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
La France a des champions. Moi, je suis le numéro 1 du secteur du recyclage. C'est-à-dire qu'on est une industrie de pointe.
stats, et ça c'est une caractéristique de notre secteur. On est vraiment en avance sur ce qui se fait dans le monde.
Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business, BFM Business, la radio de l'info économique et financière.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
En direct du Carrousel du Louvre, troisième édition du sommet BFM Patrimoine, on va parler des conseillers en gestion de patrimoine. On va voir en quoi la digitalisation des process change leur quotidien. On va en parler avec nos trois invités. Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe de Nortia, bonjour. Jean-Philippe Robin, directeur commercial de Harvest Fidroit. Et Corentin Favenec, directeur des partenariats chez Generali Patrimoine. Bonjour à tous les trois. Bonjour. On va commencer avec vous, Stéphanie. Les objectifs de la digitalisation, quels sont-ils ?
Alors, Nortia est une marketplace qui gère à peu près 700 enveloppes. Notre objectif en matière de digitalisation, ça va être essentiellement la distribution, le traitement et la gestion des actes. Alors pas la partie contractuelle, donc là c'est plus nos amis d'Harvest qui gèrent cette partie pré-contractuelle. Néanmoins, on ne l'a pas totalement ignoré, puisque cette année nous avons donné la possibilité au CGP de pouvoir déverser toute la partie KYC directement de O2S vers Nortia. Mais pour nous, alors il y a deux aspects, il y a la partie front et la partie back. La partie front, c'est la partie parcours. Donc, je saisis sur un parcours. Ensuite, vous avez la partie signature électronique. Et la face cachée, c'est la partie back-office. La partie front, alors c'est la partie parcours. Je saisis un parcours pour rentrer une souscription, saisir un arbitrage, un versement complémentaire, un rachat. Donc, tout ça, on l'a fait. Enfin, Nortia l'a mis en place, avec évidemment des règles de gestion. Donc, ça évite évidemment le papier, le côté illisible du papier. Ça arrive directement dans nos systèmes, donc ça évite aux gestionnaires de ressaisir. Mm-hmm. Donc, plus de fiabilité, plus de sécurité. La partie signature électronique, et là, je voudrais tuer tout de suite un sujet. Il y a beaucoup de conseillers qui nous disent, bah là, je comprends pas, la signature électronique, c'est facile. Pourquoi on l'a pas sur tous les produits ? Eh bien, l'explication est simple. En fait, c'est pas la signature électronique qui pose problème. Et avec Corentin, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques minutes. C'est tout ce qui entoure la signature électronique. C'est... comment j'authentifie le client et le recueil des consentements. Et ça nécessite des années d'échanges juridiques, IT, pour sécuriser le client et surtout le CGP. Donc ça, on l'a mis en place avec pas mal d'assureurs. On va le mettre en place encore en début d'année avec trois autres assureurs et, j'espère, avec Generali en 2022.
Bien Alors, sûr. On va parler justement de Generali avec vous, Corentin Favenec. Est-ce que les clients sont demandeurs de digitalisation ?
Les clients sont très demandeurs de digitalisation. Quand on leur pose la question, typiquement, un petit exemple, est-ce que vous êtes prêt à faire appel à de l'intelligence artificielle pour gérer votre épargne ? Ils sont plus de la moitié à être partants pour aller sur ces solutions de digitalisation.
Quelles sont leurs motivations ?
Leur motivation, je pense que Stéphanie, on en a évoqué certains nombres, c'est la simplicité, oui, la fluidité, l'autonomie. Être capable à tout moment aussi de pouvoir consulter ses comptes ou éventuellement faire des opérations assez simples. L'intérêt pour le conseiller aussi, c'est de pouvoir se décharger vraiment de toute cette partie administrative, de pouvoir, comme on l'a dit, sécuriser les opérations d'un point de vue réglementaire, parce qu'on voit que c'est une préoccupation qui est de plus en plus prégnante et importante. Et donc, pouvoir se concentrer sur la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est son conseil. Et on voit que le conseil, surtout dans ces temps de plus en plus agités, avec de la volatilité, il y a beaucoup de questionnements. Voilà, la valeur ajoutée du CGP, du conseiller en gestion patrimoniale, c'est ça, et moins de remplir des papiers.
Sécuriser l'opération, Jean-Philippe Robin, c'est l'avantage, c'est le principal intérêt pour le métier de CGP, la digitalisation ?
Oui, comme le disait Corentin, c'est avant tout un gain de temps ouais, sur des opérations qui peuvent être fastidieuses. C'est simplifier l'ensemble des parcours. Je pense que l'enjeu il est là aujourd'hui. Nous on l'a constaté simplement sur nos outils. Stéphanie le racontait très bien. La signature électronique, c'est quelque chose qui a totalement pris. Maintenant, la signature électronique, c'est un élément, parce que derrière, il faut vraiment éviter tous les éléments de rupture de charge, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait avec Nortia, c'est ce qu'on fait avec Generali Patrimoine.
Quel est aujourd'hui l'état de la digitalisation chez les conseillers en gestion de patrimoine ?
Nous, on a un chiffre que l'on regarde attentivement, c'est le temps que les utilisateurs passent sur nos solutions, qui sont des solutions de digitalisation, de parcours, de process, de process réglementaire. On a constaté en 5 ans une augmentation de 92% du temps de connexion sur les outils. Et dans la même période, on a augmenté que de 50% notre nombre d'utilisateurs. Donc il y a un effet massif sur la digitalisation et sur la simplification des process. Maintenant, il y a le conseil, le réglementaire, l'acte de gestion, la souscription, le suivi dans le temps, et c'est quand on arrivera à gommer les ruptures de chaîne entre ces différents parcours que l'on sera véritablement gagnant, et c'est ce à quoi on s'emploie avec l'ensemble de nos partenaires.
Et le traitement des souscriptions, parce que l'objectif c'est pas d'avoir un document signé, enfin ça c'est bien, mais c'est de le traiter. Et c'est vrai que notre enjeu, c'est avant tout de digitaliser à la fois les process et les flux avec nos partenaires, pour là aussi éviter les erreurs, aller plus vite, plus de simplicité, de réactivité, et c'est la qualité de service qui en dépend.
Vous dites signer c'est bien, traiter c'est mieux.
Tout à fait. On recevait du papier signé, maintenant on reçoit des documents saisis avec une signature électronique, mais il faut que l'arbitrage passe bien, au bon moment, dans les conditions et les règles de gestion du produit, et le tout, mais sans anicroche et sans problématique. Et c'est ça l'enjeu, parce que le CGP conseille, mais derrière il faut qu'il y ait des actes, il faut que les actes soient réalisés.
Et le client final, pour rebondir sur ce que tu dis, le client final, il est impatient d'avoir son opération. Il n'est plus prêt à attendre, comme il le faisait auparavant, des jours, voire des semaines, que son opération soit traitée.
Corentin, vous étiez venu en plateau chez BFM Business il y a quelques semaines. Le digital, vous nous l'aviez dit à l'époque, fait partie de votre ADN chez Generali depuis assez longtemps.
Oui, c'est sûr que c'est dans notre ADN. On a le premier contrat d'assurance vie en ligne, on l'a lancé il y a plus de 20 ans maintenant. On a lancé l'extranet Nomineo plus de 20 ans aussi. On l'a enrichi, on a lancé la signature électronique, je crois que c'était fin 2014. Donc c'est quelque chose qui est bien ancré avec Harvest et la solution Harvest Business Link. On a aussi intégré avec la solution Harvest. Donc on voit qu'on a ça dans notre ADN, on le développe de plus en plus. En plus, on développe beaucoup de solutions avec des fintechs, donc des acteurs très agiles, qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'innovation. Donc on a dû relancer sur la dernière année une bonne dizaine. Et toute cette innovation-là, maintenant, l'enjeu, c'est que ça vient enrichir toutes les solutions qu'on propose aussi pour nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Et je reviens sur ce point-là, mais qui est très clé. C'est on arrive vraiment à marier le physique et le digital, et c'est ça qui est attendu par nos conseillers.
Est-ce que la crise sanitaire et l'évolution du cadre réglementaire ont accéléré cette numérisation ?
Clairement, ça a accéléré le phénomène. Juste un chiffre, les souscriptions en ligne qui ont été réalisées l'année dernière en 2020, on en a plus de 7 sur 10, donc 70% de nos souscriptions qui ont été réalisées en ligne par nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Et cette année encore, on en a encore plus 6 sur 10, parce qu'il y en a certains qui sont revenus sur papier, mais on voit que c'est une tendance de fond.
Le confinement, le télétravail ont clairement accéléré les habitudes des consommateurs. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, proposer un acte signé papier, enfin, nous on a sorti une gamme de PER avec 3 PER, il était juste inadmissible de sortir cette offre papier. C'est-à-dire qu'on a préféré la sortir plus tard, mais digitalisée.
Ouais. Où est-ce qu'on en est en France en matière de digitalisation ?
Alors, je le disais, on a encore des discussions, et c'est plutôt d'ordre juridique, sur la signature électronique, sur certains actes. Donc c'est ça qui fait que on ralentit, enfin le process de signature électronique est ralenti. Ce sont des échanges essentiellement juridiques, mais chez nous en tout cas, une grosse partie de nos assureurs sont déjà digitalisés, et en 2023, enfin tout le monde sera digitalisé. Enfin, je pense que on est tous d'accord pour dire que c'est inenvisageable d'avoir encore du papier en 2023.
Jean-Philippe, ceux qui ne le sont pas sortiront du marché.
Voilà, ouais. Tout à fait. C'est un enjeu commercial. Hein.
Tout digital à l'avenir, Jean-Philippe.
Alors, tout digital, oui et non. Je pense que dans le métier, notamment le métier de conseil patrimonial, la relation humaine, la relation personnelle avec un conseiller qui est stable, qui suit dans le temps, qui apporte de la valeur, c'est essentiel que ça se fasse avec une présence humaine. Alors, bien entendu, il y a un développement de la visio, il y a un développement d'autres moyens de communication. Il y a des éléments aussi d'échanges digitalisés avec le client final pour que le client final soit acteur de son patrimoine. Mais je pense quand même que le conseiller est clé, et j'imagine pas, en tout cas dans un avenir à court terme, qu'il soit des intermédiaires.
L'un va avec l'autre. Le digital permet de passer plus de temps avec son client.
Oui.
C'est ce que vous venez d'expliquer.
Et puis surtout qu'on a des enjeux en termes de qualité de service. C'est-à-dire que on voit que les contrats sont de plus en plus riches. On nous propose de plus en plus d'unités de compte notamment. Donc c'est de plus en plus d'opérations. Et si on veut pouvoir assurer la qualité de service, qui est juste maintenant un standard sur le marché, pas que dans la finance, mais dans la vie de tous les jours, si on n'a pas cette digitalisation, on n'est pas capable de pouvoir supporter toute cette augmentation de volume. Et nous, en termes de qualité de service, juste sur la partie généralité de patrimoine, c'est pratiquement 1 million d'actes par an. Ouais. Donc pour être capable de pouvoir encaisser tout ça, si on n'a pas le digital, on n'est pas capable d'accompagner cette qualité de service.
Et le CGP est par définition multi-partenaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne peut pas, pour un conseil, avoir un acte signé papier, un acte signé digitalisé avec la signature électronique. Enfin, l'objectif, c'est que tous ces produits, à un moment donné, soient complètement digitalisés, en facial, en front et également en back. Ça, c'est vraiment l'enjeu.
Dernière question, mais ce chantier de la digitalisation, selon vous, c'est le principal chantier du moment pour les conseillers en gestion de patrimoine ?
Moi, je dirais que le chantier, il est déjà bien lancé.
Ouais.
Et comme le disait Stéphanie, aujourd'hui, le conseiller, le distributeur, il cherche les plateformes, les assureurs qui sont déjà digitalisés. Et je pense que c'est une barrière à l'entrée sur des nouveaux acteurs, sur les éléments. Donc, à mon avis, on a quand même déjà bien avancé ces choses-là. Il reste plein de choses à faire, plein de choses à améliorer, plein de choses encore à fluidifier, mais le coup est lancé.
Mais c'est sûr que les conseillers en gestion de patrimoine ont bien pris le virage et sans doute même plus vite que d'autres. On voit qu'ils sont, c'est une de leurs caractéristiques, c'est la proximité et l'agilité et la capacité de s'adapter. Là où déjà on leur disait sur la partie réglementaire ça allait être compliqué, ils ont réussi à être très agiles, utiliser ces solutions notamment digitales pour pouvoir être maintenant presque en avance par rapport aux autres segments.
Merci beaucoup à tous les trois pour votre analyse, votre éclairage. Merci. Corentin Favennec, directeur des partenariats chez Generali Patrimoine. Jean-Philippe Robin, directeur commercial Harvest Fidroit. Et merci à vous, Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe chez Nortia.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant à suivre, toujours en direct du sommet BFM Patrimoine, 60 minutes business présenté par Guillaume Paul. Cet après-midi à partir de 15h pour BFM Bourse, également sur ce plateau, vous retrouverez Vincent Touraine. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.